Ah, sac. Une sorte que l'hiver finisse, pour vrai.
Je suis plus capable. J'ai enfin eu accès à mon cabanon. Ça doit faire 2 mois que j'y ai pas accès.
Sérieux?
Ah, facile, facile, facile.
Moi, j'ai passé trois. Ben, on s'en est parlé un matin, mais j'ai passé 3 heures et demie à virailler dans mon quartier parce que j'attendais
Ah,
après du parking. Jesus.
je viens de flasher que j'ai pas accès pour vrai à mon cabanon encore. J'ai accès à la porte, sauf qu'elle est gelée.
Ah ben voilà.
Fait que je peux même pas l'ouvrir.
Eh boy, shit. On commence-tu?
On va commencer. Ben, en fait, je pense que c'est commencé. Moi, je dis que c'est déjà commencé.
Ouais, on pourrait. Hey, by the way, là,
Oui.
faire un petit suivi avec notre épisode de la semaine passée. Je pense que Trevor Timmons et Marc Bergevin nous écoutent. Sérieux.
Pourquoi?
Là, c'est que. Niaiseux comme je suis, moi, grand. Tu sais, je veux dire. Je parle de plusieurs joueurs, puis je parle de des gars qui pourraient intéresser le Canadien. Puis... Qui était au match Husky contre Phoenix en fin de semaine?
Ben, un des deux, Bergevin ou Timmins?
Ben, t'as pas la bonne réponse.
Les deux!
Les deux étaient là.
Ta!
Et là, je commence. Moi, je m'en sur Twitter et je m'en vais marquer. Mais tu sais, si tu vois, c'est un beau match pour une pierre deux coups pour Marc Bergevin et Trevor Timmins parce que ça permet de voir un espoir du Canadien, Joel Teasdale, et un possible espoir de choix, un choix de première ronde, Samuel Poulin, qui joue pour le Phoenix. Tu sais, c'est un beau compromis. Tu peux voir les deux, tu peux faire une évaluation, ces deux, puis tout va bien. Et là, il y a un journaliste de Rouen qui me saute dans la... Ouais, mais il y a Alex Bocage aussi. Et là, j'ai fait « Oh!
Oh!
Oh! » J'y avais pas pensé, celle-là. Et là, de me dire « on en a parlé justement la semaine passée dans le
Ben
podcast,
oui.
et ils sont là en fin de semaine. Coïncidence, je ne crois pas.
Fait que c'est hot parce que parmi nos 5 auditeurs, ben on a Trevor Timmins et Marc Bergevin.
On
C'est
les
très hot.
salue.
Tu
On les
sais,
salue.
on y va pas pour la qualité, pour la quantité, on y va pour la qualité. C'est ça
Exactement.
le plus important.
Exactement. Alors, non, honnêtement, j'ai comme esquissé un sourire et je trouvais ça bien
Mais
drôle.
ça serait hot, là. C'est sûr, ça serait hot de l'avoir.
J'adorerais avoir Alex Bocage.
Vraiment.
Sérieusement, là, je vais en faire un man crush d'ici la fin de la
En
saison,
fait,
là.
je pense que c'est déjà fait dans la façon que t'en parlais la
Ah
semaine passée. C'était déjà fait depuis un petit bout,
oh, oui, c'est
là.
définitivement un man crush. Si ça va mieux dans nos qualités d'auditeurs, parce que comme on le sait, tous nos auditeurs sont de qualité,
Oui.
ça va moins bien pour le Canadien. Ben, en fait, ça va moins bien. C'est une chose. En fait, ça va
Ça allait
pas.
moins bien jusqu'à hier soir.
C'est ça.
Puis depuis hier soir, ça va juste un petit peu mieux.
Ouais. Parce que non, c'est parce que ça a mal été dans l'Ouest, on se le dit. Là.
Juste un petit peu.
Vendredi passé, là, elle a fait mal, celle-là.
Vendredi était rough.
Ouais.
Vendredi, là, c'était
Mais
pas facile.
la game était. Honnêtement, pour avoir regardé le match de la job, là, la game était plate, là.
Ben, c'est clair.
Ah, non, mais tu sais, même UTT du score, là, la game était plate, là.
Ah, c'est
Écoute,
évident. Parce que. Oui,
les
vas-y,
deux
vas-y.
équipes jouaient pas. Mais dans le sens, ils jouaient pas. Les deux équipes jouaient, mais jouaient mal.
Ouais.
Mais c'est juste que ça a donné que les Ducks sont juste un petit peu mieux joués que d'habitude, qui jouent mal. Puis... Ah non, c'était pénible. C'était vraiment
Ah,
pénible.
vraiment. Puis. Déjà, en plus, là, ce qui a fait mal aussi, c'est samedi, pas de game. Ça, j'haïs ça. Un maudit samedi soir, pas de game. Tu sais, si au moins la game de vendredi aurait été samedi, ça aurait été déjà. Ça aurait peut-être été moins pire parce que au moins on aurait une game le samedi.
Ouais, c'est ça.
Mais en fait, non, parce qu'ils se sont fait planter 8 à 2. Fait que non, là, il n'y aurait pas eu
Ouais.
plus de game. Mais non. Puis pour vrai, là, hier, parce que ça nous a donné un break de vendredi à mardi qui a pas eu de match.
Ouais.
Puis hier, oui, on a gagné 3-1. Oui, Price a battu un record.
On le salue
On le
d'ailleurs.
salue. On
Ça.
salue la chèvre Carey.
Oui, exact.
D'ailleurs, j'ai fait un meme sur Carrie que j'ai publié sur notre page Facebook. Allez liker la page Facebook.
Oui, si c'est pas déjà fait.
Et un match assez plate pour vrai hier. Là, c'était pas. C'était vraiment. Là, j'ai essayé de le regarder. Là.
Ouais,
je
non,
me suis forcé.
Moi, hier,
ça a fait
le goût
mal,
puis
j'ai même pas été capable.
J'avais le goût de regarder le Canadien hier soir, puis c'était là, d'un ennui mortel. Même à un moment donné, j'étais écrit, puis j'ai fait comme. Et que c'est plate.
Oui, by the way, la game est plate en tabarouette. C'est
ah,
pas
ouais,
mal
ouais,
mot pour mot, ça. Là.
Ouais, c'est ça. Mais une chance, on avait d'autres choses pour se divertir. Mais non, honnêtement, j'étais un peu déçu du rendement du Canadien hier. Une chance, c'était contre les Red Wings. Mais je m'y attendais un peu parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont dit sur les différents panels hier. La première game du retour de voyage dans l'Ouest, là, ce qu'on appelle, on l'appelle en bon français un stinker. Là. C'est une game où les gars ils ont les jambes lourdes. Là. Puis,
ouais.
Puis tu sais, ils jouent vraiment mal. Sauf que hier quand même ça a terminé sur une bonne note, une victoire et comme tu disais la 315e victoire de Carey Price. Moi j'ai une question pour toi juste avant qu'on passe à un autre sujet parce que mais est-ce que Carey Price selon toi a le pedigree nécessaire pour voir son chandail être retiré?
Oui. Je pense que c'est une question qui maintenant ne se pose plus. C'est sûr qu'il manque une coupe, c'est sûr. Puis on en voudrait une, mais même sans Coupe Stanley, ça me dérangerait pas.
Ben, moi, ça me dérangerait pas non plus. Puis je te pose la question parce que j'ai eu le débat de cela une couple de semaines. Ben, pas une couple de semaines, mais une couple de. Peut-être une semaine ou deux là, avec un intervenant sur Twitter. Puis lui, semblait. Tu sais, moi, ce que je disais, c'est que dans les critères du Canadien. Quand tu regardes les noms qui sont au plafond, une Coupe Stanley semble être un critère absolument inconditionnel. Je veux dire, c'est faut que t'ailles, considérant que le Canadien en a gagné 24, faut que tu ailles gagner une Coupe Stanley. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Pas nécessairement, mais je pense que Price mériterait aussi que son chandail soit retiré, mais tu parles d'un point de vue du Canadien, je sais pas si ça va arriver. T'sais, moi, je pense qu'il mérite au minimum, il y a un fameux l'anneau d'honneur, là, l'anneau des bâtisseurs,
oui, ça, oui.
Ça là, minimum,
oui,
c'est
ça,
le
c'est un minimum.
Strict minimum, il faut qu'il soit là, je veux dire...
Parce que si tu le mets pas là, avec tout ce qu'il a fait...
Mm-hmm.
C'est comme si tu disais le gars qui a le plus de victoires dans l'histoire de cette concession, qui est au-dessus de.
Mérite pas notre reconnaissance.
Ouais, c'est ça. Alors que l'organisation, elle a au-dessus de 100 ans, là, bientôt 110 ans. Là.
Ouais, c'est ça.
Fait que le gars qui en a eu le plus dans toute l'histoire de cette équipe-là, bof.
Ouais, c'est ça.
Tu peux pas être bof quand tu récoltes 315 victoires avec la même équipe dans ta carrière. Puis qu'en plus, c'est le plus de victoires de toute l'histoire d'une des équipes qui est la plus vieille de la Ligue. Puis en plus, qui est celle qui en a le plus de victoires dans toute l'histoire de la Ligue.
Puis tu sais, ce nombre-là, en plus, va augmenter. Il va aller de plus en plus haut. Tu sais, de faire ça avec je sais pas si c'est ça qui va arriver dans le cas de Price, je le souhaite, mais tu sais, d'avoir toutes ces victoires-là avec la même équipe, ce serait tout un accomplissement encore plus. Tu sais, je veux dire, moi je pense, tu sais, il mérite une reconnaissance, il n'y a pas le choix. Puis c'est drôle parce qu'encore hier, Twitter est parfois un lieu de débat incroyable et à la fois désagréable. La twittosphère est incroyable. Mais hier, les gens disaient. Ouais, mais il sera jamais Jacques Plante, il sera jamais Cam Dryden, il sera jamais Patrick Roy. Puis moi, je me suis posé la question, j'ai dit, est-ce qu'il faut qu'on juge, tu sais, on juge-tu vraiment un gardien par rapport, tu sais, à ce que les autres ont été ou par rapport à l'époque? Puis tu sais, quand tu regardes ça froidement, les quatre premiers, on parle justement Price, Dryden, Patrick Roy et Jacques Plante. Est-ce que Jacques Plante était le meilleur gardien de sa génération?
Oui.
Est-ce que Patrick Roy était le meilleur gardien de sa génération?
Oui.
Est-ce que Cam Dryden était le meilleur gardien de sa génération?
Oui.
Est-ce que Carey Price est le meilleur gardien de sa génération?
Je suis pas capable de le dire avec autant d'affirmations.
Mais il est un des meilleurs.
Parmi, oui. Mais c'est ça le problème, c'est le 1D qui est un problème. Fait que je pense que... Mais cette question-là, au complet, est très difficile à répondre. Même si ça même dans 5-10 ans, cette question-là va être difficile à répondre.
Parce qu'il y a beaucoup de très bons gardiens. Mais tu sais, je veux dire...
Non, en fait, parce que c'est d'avoir le recul nécessaire. Tu sais, est-ce que Sakukoivu devrait avoir son chandail retiré par le Canadien de Montréal?
Non.
Ah, ben, sais-tu, moi, je suis pas si sûr que ça. Moi, je pense que peut-être oui. Avec tout ce qu'il a fait...
Le seul gars, je vais être franc avec toi, là, le seul gars qui, selon moi, devrait avoir une considération pour son chandail retiré parmi les joueurs là, entre le milieu des années 90 et les années 2010, là, tout ça, à part Price, bien évidemment, là, André Markov.
C'est drôle, c'était ma prochaine. C'était mon prochain. Est-ce que lui...
Markov, Price, oui. Koivu, j'ai plus de misère. Puis c'est pas
Kovalev?
Parce que non, pas en tout.
OK.
Mais non, pas en tout. Mais Koivu, c'est juste parce que il n'y a pas le même prestige que... Tu sais, il n'y a pas... Tu sais, exemple, là... Tu sais, Koivu, là, si je me souviens bien, il est dans le top 15 pour les meilleurs marqueurs dans l'histoire du Canadien. Oui, c'est bon, le top 15, mais il y a plusieurs joueurs qui sont dans le top 10 qui n'ont même pas leur chandail retiré encore, entre autres Jacques Lemaire, qui, selon moi, est un non-sens, que c'est pas ce chandail-là est pas retiré encore. Mais tu sais, tu regardes André Markov, il est deuxième dans l'histoire du Canadien pour le plus grand nombre de points par un défenseur. Ça, c'est considérable.
Sakou, il me semble, c'est lui qui a été capitaine le plus longtemps de l'histoire de l'équipe. Ça aussi, là, ça... comme parce que... C'est sûr que le débat autour de Sakou est différent parce qu'il amène un côté émotif de tout ce qu'il a fait pour la ville. Puis
il a donné un pescan!
Ouais, il y a l'hôpital, mais toute l'histoire aussi de sa maladie. C'est sûr que c'est plus difficile à répondre parce qu'il y a tout ce côté-là émotif. Puis ça devient, la question, ça devient c'est quoi les critères pour retirer son chandail parce que. Tu sais, comme tu l'as dit, une Coupe Stanley a l'air d'être obligatoire pour les joueurs qui sont retirés par le Canadien. Est-ce qu'il faut qu'on se limite à ça, là? Parce que si oui, ben là, ça fait 20 ans qu'on n'a pas gagné de Coupe Stanley. Fait qu'on... Ça veut dire que ça fait 20 ans qu'on a 20 ans de notre histoire, qu'on n'a aucun joueur qui mérite d'être souligné de cette façon-là. J'ai bien de la misère à dire oui à ça. Là. D'après moi, il y a au moins un ou deux joueurs depuis tout ce temps-là qui méritent de voir leur numéro retiré. Le 31 de Price, ça me dérangerait pas. En ce moment, j'ai encore de la misère à dire un oui catégorique. Justement à cause de ça, à cause de la Coupe Stanley.
Ouais.
Mais moi, j'ai envie de te poser une autre question un peu avant qu'on change de sujet et qu'on aille plus du côté de la NFL parce qu'on a beaucoup de sujets de la NFL et de football en général après. mais je veux te poser une dernière question. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 matchs à la saison du Canadien.
Mm-hmm.
Le Canadien en ce moment est en troisième position pour une place de wild card, donc...
Les équipes repêchées.
Ouais, c'est ça. Donc, à égalité, en fait, avec Columbus, qui a la dernière place en série, mais Columbus a le tiebreaker. Es-tu confiant, que le Canadien va faire les séries cette année?
Ouf, c'est une bonne question. Je pense que le Canadien ne fera pas les séries, mais... Je pense pas qu'il faut considérer ça comme un échec si on ne fait pas les séries. Je m'explique. C'est que, tu sais, on a parlé que le Canadien était supposé aller nulle part, puis que
on a commencé la saison en disant que ça va être une saison de misère.
C'est ça, exact. Tu sais, on s'était entendu là-dessus que ça allait être une saison de MRDE. Puis, je veux dire, on a eu vraiment une bonne saison, puis une équipe relativement compétitive pendant une soixantaine de matchs, je te dirais.
Même surprenante, là. Ça a été, plusieurs matchs.
Oui, ça a été une des surprises, là, sans l'ombre d'un doute. Sauf que, là, présentement, le Canadien se bat avec des équipes qui sont à la fois... hot et à la fois beaucoup plus talentueuse qu'eux. Puis, tu sais, je comprends que sais, là, on trouve ça plate parce que, si on ne fait pas les séries, on va être probablement, tu sais, dans le spot aux alentours, tu sais, pour le repêchage d'expansion, on va être aux alentours du 15e échelon, du 15e échelon, j'ai pas regardé, là, nécessairement, là, où on allait se situer, là, tout dépendamment, là, de si on faisait les séries ou pas. Mais, tu sais, on est aux alentours, justement, là, de la dernière place, des chances les moins bonnes pour la loterie, puis pour le repêchage. On n'est pas là d'exemple dans le 12, 11 ou quoi de même. Fait que, il n'y a pas de possibilité nécessairement qu'on monte puis qu'on reste là à moins d'un miracle. Mais mon point est que je pense que le Canadien être à la porte des séries mais ne pas se rendre là cette année va faire en sorte que cette équipe-là va en ressortir grandie. Parce que cette année-là, c'est probablement, dans les 3-4 prochaines années, c'est la pire des 3-4. Parce que là, Ryan Poehling s'en vient. Nick Suzuki s'en vient. Il va avoir aussi Josh Brooke qui joue aux États-Unis, mais qui joue dans la WHL. Les espoirs vont commencer à arriver. Puis là, c'est là que tu vas avoir des gars qui vont aller dans la Ligue nationale, des gars qui vont aller dans la Ligue américaine un peu avant de remonter. Fait que, tu sais, c'est pas si pire dans la mesure que si tu fais pas les playoffs, c'est pas grave, t'étais pas supposé les faire, mais en même temps, tu te places dans une position où t'es comme, ben, Colin, je vais quand même avoir un bon espoir à ajouter à cette banque-là qui va s'en venir pis qui va pousser mes vétérans. Fait que, tu sais, ok, ça va être si les Canadiens font pas les séries, c'est ordinaire, mais c'est loin d'être une mauvaise nouvelle.
Ouais, puis si maintenant le deuxième volet, là, si le Canadien se trouve une place en série, mm-hmm. peu importe qui on affronte, là, vraiment juste le volet performance.
Pas t'aime pas.
Mais juste le volet performance du Canadien, peu importe contre qui, là, juste voir, si tu fais juste regarder ce que le Canadien est capable de mettre sur la glace, es-tu confiant que le Canadien peut livrer une bonne performance? Pis ça veut pas dire gagner. Ça peut vouloir dire perdre en 4, mais en perdre 4 serré. Je sais pas si tu comprends.
Je pense que oui. Je suis assez confiant que le Canadien va pouvoir, avec l'énergie de ses partisans et tout ça, pouvoir être moyennement compétitif. Dans le sens que, tu sais, ils gagneront probablement pas, mais ils vont être capables d'offrir un bon show, tu sais.
Dans une série 4-7, les deux premières games, visiblement, c'est pas le ça sera pas joué à Montréal, là.
Non, je suis d'accord.
Faut pas juste que tu te présentes au match à domicile, faut que tu te présentes au match à l'étranger aussi, là.
Oui, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que. Non, mais c'est pas parce que t'es à l'étranger que l'énergie de la foule, tu la sens pas dans les entraînements avant de partir pour. Le Canadien, je veux dire, c'est pas mal worldwide. Puis si on affronte le Lightning dans la position qu'on est actuellement, il y a du monde en Floride qui vont quand même prendre pour le Canadien.
Ouais.
Fait que tu sais. Moi, je pense qu'ils vont être capables de donner un bon show, mais c'est ça.
Ça va finir décevant.
Ouais, ils vont être bien ouverts aux commentaires, puis si on paye le cognac, comme ils disent. mais non, fait que bref, je pense pas que le Canadien va passer la première ronde. Je serais le premier surpris, du moins. Si on fait les séries, mais. Je pense qu'on pourrait offrir une certaine opposition et non pas une opposition certaine.
Ouais, exact. Bon, on va passer.
What is going on, NFL?
le sujet important aujourd'hui.
Le sujet.
Ouais, parce que en ce moment, en fait, c'est l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la NFL.
Année.
Oui, bonne année. Bon début de nouvelle saison de NFL. Donc, c'est ça, la nouvelle saison qui a débuté, je pense que c'était hier, officiellement.
À 4 heures aujourd'hui.
Ah, aujourd'hui.
Oui.
Depuis lundi que les équipes peuvent discuter avec les joueurs, à peu près.
Ouais, dimanche 4 heures, autrement dit.
Dimanche 4 heures, bon.
Ouais.
Puis les joueurs peuvent officiellement signer depuis 4 heures aujourd'hui.
Exact.
Et depuis, avant même que les équipes aient officiellement le droit de parler aux joueurs, ça swingait de tous les bords il y avait des discussions, il y avait des rumeurs, des noms de joueurs qui se promenaient à gauche et à droite. Puis ça n'a pas arrêté une seconde depuis ce temps-là. On va commencer par, je pense que c'est le plus gros de tout. Moustache de lait qui s'en va aux Raiders Brooklyn.
je te dirais que c'était le plus gros.
Oui.
Puis
c'est celui qui attirait le plus d'attention.
Oui. Et à cause d'hier, c'est devenu un A, un B, je t'avouerais.
Oui. Oui, je suis d'accord avec toi.
Parce qu'on va, en fait, il s'est tellement passé du stock hier.
Les deux partent de la même équipe, là. On va s'entendre. On parle d'Antonio Brown puis de Le'Veon Bell. Antonio Brown, aussi connu sous le nom de Moustache de lait. Lui voulait aussi dernièrement qu'on commence à l'appeler Monsieur Big Chest. Et je suis outrageusement contre. je vais garder Moustache de lait. Parce que lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est tout un tour de force. Là. Il a réussi à aller chercher du pouvoir, en fait, à forcer la main des Steelers pour qu'on l'échange où il voulait, lui, aller. Au départ, il voulait aller. Il a été échangé aux Bills de Buffalo dimanche soir. Finalement, il y a eu des discussions et lui, il a réussi à faire annuler la transaction littéralement parce que les Bills voulaient signer une nouvelle entente avec Brown afin d'avoir son commitment. Là.
Ouais,
et lui, il a tout refusé complètement. En fait, même que sur une publication sur Instagram de la NFL où il était annoncé qu'il y avait eu un deal en place entre les Steelers et les Bills, puis lui, il était écrit que Antonio Brown s'en allait à Buffalo, et lui il a répondu en commentaire fake news. Donc c'est pour dire, il a réussi à complètement casser les reins des Steelers, les obliger à l'envoyer lui à Oakland avec les Raiders. Il a signé une prolongation de contrat, il me semble.
Oui.
Il a été annoncé officiellement aujourd'hui par les Raiders avec John Gruden. Puis là,
il a laissé tomber d'ailleurs la moustache de lait aussi.
Oui, effectivement. Je sais, c'est mais le surnom, je le laisserai pas tomber, ça c'est sûr et certain. Ça reste au moins un an. C'est sûr et certain. Avec cette moustache, c'était horrible. Oh,
non, c'était horrible. Contravention de style.
Ah, vraiment? Puis là, ça amène la question, est-ce que les Raiders sont tout d'un coup, peuvent être dans une discussion?
Dans une discussion...
Est-ce que les Raiders peuvent réellement se faire une place en série, ou au moins menacer d'avoir une place en série cette saison?
Non. Honnêtement?
Non.
Non.
Moi, ça... je suis convaincu que non. Ben, pas avec les Chargers et les Chiefs.
Pas, ouais, c'est ça. Pas cette année, je pense pas. Mais ils ont plusieurs choix, au choix de première ronde. Au choix de première ronde. Ils en ont trois, en fait. Tu sais, je veux dire, ils ont du capital avec Mike Mayock pour se faire un club. Pour se faire solidement un club,
oui.
D'avoir les coups d'effranche sur une organisation pas aussi déficiente que les autres années, puis qui va permettre justement d'avoir avoir vraiment du talent dans cette équipe-là, parce que c'est ça qui manque avec les Raiders, c'est ça qui manquait avec les Raiders. Puis honnêtement, Mike Mayock, là, c'est sa première transaction, techniquement. Là,
ça en est une excellente.
Écoute, il t'a volé les...
Mais il faut dire que les Steelers n'avaient pas le choix. Là. C'était pas mal... En fait, il leur a forcé la main. D'après moi, il n'y avait pas grande autre équipe où il voulait aller que là. Puis où l'autre équipe voulait de lui. Lui-même avait parlé des 49ers. J'avais entendu parler les Packers... Puis il y a une autre équipe aussi qui m'échappe, mais ces équipes-là voulaient pas, il y avait juste les Raiders qui le voulaient, là, parce que oui, faut que tu payes pour la transaction, mais aussi faut que tu payes pour le contrat après. Puis Abby, il voulait 4-5 banques. Là.
Ah ouais.
C'était assez impressionnant. Là, mon problème avec les Raiders, c'est que, oui, t'as Antonio Brown, le meilleur receveur de passe de la Ligue, je pense qu'on peut dire ça. Oui, t'as Marshawn Lynch, qui a déjà été le meilleur porteur de ballon de la Ligue, qui est encore quand même efficace, fiable, entre guillemets, quand il n'est pas blessé. T'as Derek Carr qui est capable de te donner du bon travail, mais après ça, t'as rien. Là.
Ben, c'est là où que le repêchage devient, devient important. Puis c'est ça un peu, c'est ce que je dis, c'est que, tu sais, là, sont allés chercher, tu sais, Antonio Brown, qui est un receveur numéro 1. Mais là, ça te donne plus la pression d'arriver au draft. Bon, faut que j'aie un receveur numéro 1 à aller chercher. Tu l'as. Tout est beau. Fait que tu sais, tu peux te permettre, exemple, d'en avoir un numéro 2 qui est un bon 3, mais qui, dans ton organisation, est un 2 et qui, éventuellement, va devenir un numéro 2. Tu sais, après ça...
Sauf que ton numéro 2, est-ce que tu vas réellement aller chercher un petit jeune au draft ou tu vas laisser Jordy Nelson, un vétéran? Ça devient une décision difficile, ça dépend tout le temps. Où est-ce que tu vas chercher, dans quelle ronde, c'est sûr, ton
receveur. Ouais, c'est ça.
Mais c'est parce que Jordy Nelson, il avait de la misère à tourner le coin là, cette année. Fait que l'année prochaine, ce sera pas mieux.
Non, ça, je suis d'accord.
Mais je suis d'accord avec toi que le futur est plus rose qu'il était à Oakland ou à Vegas. Parce que il reste juste une saison.
Ça, c'est une autre affaire aussi que les gens sous-estiment un peu. C'est que, tu sais, un Antonio Brown, là, côté marketing, ça se vend bien. Là.
Oui. C'est sûr.
Tu sais, je veux dire, eux autres, ils ont besoin d'un joueur comme ça, tu sais, de vendre le football à Vegas. Puis un gars comme Antonio Brown, c'est ce qu'il va apporter.
C'est sûr. Mais les experts marketing vont tous te dire la même chose. La meilleure affaire pour vendre, c'est une équipe qui est bonne sur le terrain.
Ouais, ça, je suis d'accord. Mais, tu sais, ils se donnent les outils. Tu sais, je veux dire, ils ont plusieurs très hauts choix au repêchage. Puis, fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que ça va être une année intéressante pour les Raiders, mais je suis d'accord avec toi que selon moi, les séries risquent d'être difficiles. Mais on commence. Je trouve à date, là, on parlait beaucoup de Mike Mayock comme étant là, le DG là-bas. T'sais, on se disait pour le draft, il va être bon. Ça, c'est la question se pose pas. Mais c'est après, t'sais, les décisions football rendues dans la NFL, de quoi ça va avoir de l'air. Pour le moment, j'aime ce que je vois. Je peux pas nécessairement dire que j'haïs ça, mais tu sais, regarde, tout le monde vantait John Lynch quand il est arrivé avec les 49ers. Puis depuis ce temps-là, bah écoute, l'équipe est pas nécessairement meilleure. fait que de ce côté-là, je me mets encore des réserves, mais pour le moment, j'aime ce que je vois. Mais ça va se jouer sur le terrain.
Oui, parlons maintenant d'une équipe qui a probablement été la plus active depuis les derniers jours. Les Jets de New York, entre autres, ont été chercher le deuxième plus gros nom, Le'Veon Bell. En fait, l'agent libre, le plus gros nom, le deuxième plus gros nom a circulé dans les mouvements de personnel, définitivement. Est-ce qu'on peut dire qu'il est encore le meilleur porteur de ballon de la Ligue, étant donné qu'il n'a pas joué l'année passée? C'est plus difficile, mais... Moi, ça je pense reste que les... un élite, c'est sûr et certain. Là.
Je pense que les Jets ont payé un juste prix pour le joueur parce que Le'Veon Bell demandait probablement plus. Et au final, il se ramasse à être le deuxième porteur de ballon le mieux payé après Todd Gurley. Honnêtement, c'est un secret de polichinelle qui s'en allait justement avec les Jets, mais il y avait quand même des spéculations à l'effet qu'il pouvait aller ailleurs. Moi, j'aime le move de la part des Jets pour Le'Veon Bell parce que ça va enlever de la pression à Sam Darnold. Ce qui va lui permettre d'avoir un meilleur jeu au sol. Ça va y enlever de la pression un peu. Puis si à un moment donné, il y a de la misère à aller rejoindre ses receveurs à l'extérieur, le long des lignes de côté ou à l'intérieur, ben il peut toujours faire le bon vieux check down à Le'Veon Bell, puis il va être capable d'aller chercher quelques verges supplémentaires. Un peu au même titre que l'année passée, Saquon Barkley faisait avec les Giants. Les Giants avaient de la misère à aller exploiter les zones profondes, mais t'avais tout le temps Saquon qui était là en check down. Fait que t'arrivais, Eli regardait, voyait rien, check down à Saquon, mais il faisait ça quasiment à tous les jeux. Fait que tu sais, bref, ça va aider Darnold qui a pas eu une mauvaise saison l'année passée, mais je veux dire, il y a eu une saison correcte pour une recrue.
Est-ce que tu penses que les Jets ont fait cette année ce qu'ils auraient dû faire l'année passée en entourant leur corps arrière, leur jeune corps arrière? Parce que là, c'est pas juste le Le'Veon Bell. Là. J'ai dit que c'était une équipe qui avait une des plus actives. Là. C'est pas pour rien. On a signé Bell à un contrat de 4 ans, 52,5 millions. Ouais. Comme tu as dit tantôt. On a été chercher linebacker en français, je me souviens plus. CJ Mosley qui était avec les Ravens. Ouais. 5 ans, 85 millions. Le receveur de passe, Jamison Crowder, 3 ans, 28,5 millions, qui était avec les Redskins. Ouais. Et qui est une petite vedette chez les analystes de statistiques avancées de football. C'est un joueur que beaucoup aiment bien. Donc...
Mais c'est pas un top receveur de la NFL, c'est ça, mais il est tellement efficace. Là.
C'est ça, il est très efficace, puis c'est ça que les amateurs de statistiques avancées aiment. Il est très efficace, puis il y a des statistiques avancées vraiment, vraiment solides. Henry Anderson, joueur de ligne défensive. Josh Bellamy, que tu connais très bien. Qui était avec
bon débarras, sacrément.
qui était avec les Bears. Honnêtement,
Josh Bellamy, là, puis je vais en revenir un peu tantôt parce qu'on va en parler des Bears en fin d'émission.
Oui.
Josh Bellamy, là, c'est un très bon joueur des unités spéciales.
Moi, ouais, c'est ça.
C'est juste que si tu l'emploies ailleurs, tu vas sacrer toute la
vie. Ben, en fait, les premiers mots, parce que ESPN a publié une analyse un peu du travail des Jets depuis le début les derniers jours. Puis les premiers mots sur Josh Bellamy, c'est qu'il va être le quatrième receveur des Jets.
Ce qui est
pas mal le plus haut qu'il pourrait être.
Ça
serait presque mieux qu'il soit cinquième.
Je veux dire, avec les Bears, honnêtement, son rôle était devenu limité avec raison, mais je comprenais pas pourquoi ce gars-là était dans la formation encore. Mais bon débarras, écoute, je t'as pas idée à quel point je suis content que ce gars-là ne soit plus avec Chicago. Je sais pas combien de fois j'ai regardé des games puis j'ai sacré après lui, genre qu'est-ce que tu fais là, vierge. Fait que bref, non, je suis loin d'être déçu, puis tant mieux pour les Jets, eux ça va leur faire un receveur de plus pour leur jeune carrière qui en a de besoin.
Ouais, puis ils ont aussi essayé d'aller chercher le linebacker Anthony Barr avec les Vikings. Par contre, tu sais, quand on dit que les discussions commencent plusieurs jours avant que les signatures se fassent, ça porte à des choses comme ça. Anthony Barr était supposé signer avec les Jets. Puis finalement, à la dernière seconde, non, je vais aller juste avant d'avoir légalement le droit de signer avec les Jets, il a changé d'idée et il va rester avec les Vikings. Ça aurait été une très très grosse acquisition aussi pour les Jets, puis pour leur défensive qui en a vraiment de besoin là.
Ouais.
Donc c'est ça pour les Jets, ça fait mal, mais sinon dans l'ensemble, une très bonne période des agents libres en ce moment pour les Jets jusqu'à maintenant. Puis c'est pas fini encore. On sait jamais ce qui peut arriver. C'est sûr que les plus gros noms ont pas mal bougé. Mais on sait jamais ce qu'ils peuvent sortir de leur chapeau. Parlant de sortir quelque chose de son chapeau, les Browns ont fait un coup fumant hier.
Wow.
Fumant.
Écoute, tu sais quand le journaliste qui sort la nouvelle finit son tweet en disant the deal is not le deal est fait,
c'est
je
pas
niaise
une joke.
Pas
ouais. C'est Mike Garofalo de NFL Network qui a sorti la nouvelle en premier hier soir que les Browns de Cleveland allaient chercher
en fait ça fait partie d'un gros échange, c'est ce qu'il faut mentionner là.
Ouais.
c'est Odell, excuse-moi là, je vais prendre la balle au pont, mais que c'est Odell Beckham Jr. et Oliver Vernon qui s'en vont avec les Browns pour un choix de première ronde, un choix de troisième ronde en 2019. Jabril Peppers s'en va aussi du côté des Giants et Kevin Zietler, je sais pas si je le dis comme faux.
Pas grave, personne ne le connaît.
Ouais, ben c'est un joueur de ligne offensive qui s'en va du côté des Giants. On dit clairement du côté des Giants qu'on fait une reconstruction puis que là on liquide, mais
Je pense que c'est une année trop. Ben, on peut dire que c'est une année trop tôt, parce que c'est peut-être l'année prochaine qu'il aurait fallu faire la reconstruction complète de A à Z, parce que
ben,
au moins t'aurais eu une base, mais finalement, quand j'y repense, peut-être pas, parce que ça te permet de t'assurer le premier choix au total, parce que là, il n'y a plus rien, là.
Moi, j'ai tendance à dire que je pense que c'est une année trop tard. Je
ça
t'explique.
pourrait être un... Oui.
Je t'explique. Tu sais, quand t'arrives, tu repêches Saquon Barkley l'année passée. C'est un porteur de ballon incroyable, Saquon Barkley. J'ai rien à dire là-dessus. Mais tu sais, tu pars, tu décides que, exemple, t'échanges Eli Manning. Tu sais, vraiment, là, tu tankes, là. Tu t'en vas dans la cave, puis c'est correct, puis tu t'échanges... Tu sais, quand tu le sais que tu t'en vas vers cette décision-là, repars sur des bases solides. Tu sais, je veux dire, ils ont pas fini d'un dernier l'année passée en sachant pas que ça allait mal.
Ouais.
Ils savaient très bien que ça allait pas bien. Ils savent que Eli Manning est sur ses derniers milles. Ils savent qu'éventuellement, ils vont avoir besoin d'un corps arrière, chose probablement qui va arriver au prochain repêchage. Je pense qu'ils vont possiblement jeter leur dévolu avec le choix des Browns sur un corps arrière. Mais honnêtement, moi,
Est-ce qu'il aurait dû...
Je la comprends pas.
Moi, ben, en fait, mon impression, c'est qu'on veut tout faire pour avoir la plus mauvaise équipe
ouais.
Pour aller chercher le premier choix au total l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, t'as deux très, très bons espoirs au poste de corps arrière. Puis cette année, au poste de carrière, les choix sont pas exceptionnels.
Exact.
Fait que moi, ça m'étonnerait pas qu'à la place, du côté des Giants, on va aller chercher des pièces cette année, là, donc au repêchage dans quelques semaines.
Mm-hmm.
On va aller chercher des pièces qu'on va placer, on va leur donner de l'expérience cette année, leur dire
«
Cette année, là, tout ce qu'on veut que tu fasses, c'est l'équipe.
» C'est ça.
Puis après ça... Perdez les 16, c'est pas grave.
Mm-hmm.
Parce que nous, la saison, les vrais Giants vont être pour de vrai l'année prochaine. Tu sais qu'un site internet, que tu ouvres le site, puis il y a comme une espèce de... Il y a juste une petite image de cône, puis il est écrit en reconstruction, là. Ben, ouais. Ça va être ça cette année, les Giants. Ça va vraiment être ça.
JavaScript, on va mettre...
Oui, c'est ça. C'est... on va aller chercher... Tu sais, cette année, là, ça va être... Ça va être rien, là. Ça va être vraiment ouais. Dégueulasse regarder un match des Giants, puis c'est dommage parce que cet automne, j'ai été voir un match des Giants face aux Saints de la Nouvelle-Orléans, puis j'étais parmi une section où il y avait beaucoup de billets de saison, beaucoup de personnes avec des billets de saison, là. Je voyais, là, c'était toutes des familles, c'était tout du monde qui se connaissait, mais qui, en dehors de tout ça, se connaissent pas, parce que ça se disait « Hey, salut, comment ça va cette semaine? » Puis « On se revoit la semaine prochaine. » Tu sais, c'était ce genre de fans-là. Là.
Ouais.
Puis c'était face aux Saints, la saison 5, la semaine 5, je pense. Et ça avait été ça avait bien commencé pour les Giants, mais ça avait été une débandade totale en deuxième demi. Puis je voyais les fans autour, c'est des fans, tu sais, les fans des Giants, là, ils aiment leurs Giants. Puis c'est plate de voir l'organisation virer tout croche comme ça. Surtout en même temps que les Rangers sont en reconstruction, les Knicks dans la NBA sont dégueulasses, tout va mal. C'est les Sénateurs d'Ottawa de la NBA. après ça, t'sais, les Giants, les
en fait,
Jets.
Excuse pour revenir aux Knicks, tout ça. C'est les Sénateurs d'Ottawa de la NBA aux propriétaires prêts.
Ah, en fait, les deux propriétaires ont la philosophie assez semblable. Les deux sont horribles. Dans le sport à New York, ça va bien mal en ce moment.
Mais les Jets vont bien aller l'an prochain.
Ouais, mais là, t'as les Jets. Là, les Giants, ça va être rough. Mais bon, écoute. Moi, je pense que c'est un plan correct. Est-ce que se débarrasser de Odell tout de suite était une bonne idée? Oui et non, parce que peut-être que t'aurais pu faire une enchère. Là, t'as fait un... C'est un coup fumant parce que ça sort de nulle part.
Ouais.
Si... Je suis certain qu'il y a des directeurs généraux, quand ils ont vu la nouvelle sortir hier, qui ont fait « Hein? Odell était disponible. »
Ouais.
J'aurais payé plus.
Ouais.
Ça se peut, ça aussi, là.
Mm-hmm.
Mais sinon, là, pour John Dorsey puis les Browns, c'est un coup fumant. C'est magnifique.
Ouais.
Tu sais, voyons. Le gif de Baker Mayfield après un match, un peu en fin de saison des Browns, où il a dit
I woke up feeling
dangerous, là. Ben, c'était John Dorsey hier. Là.
Ouais, c'est exactement ça. C'était toute beauté. Puis tu sais, on en parlait justement hier. Avec les Ravens qui. On va en parler un petit peu tantôt aussi, mais avec les Ravens qui perdent un petit peu de punch en attaque, avec les Steelers qui viennent de perdre toute leur punch en attaque, avec des Bengals qui sont comme « Ah, nous autres, on existe encore. » Puis, tu sais, les Browns, là, c'est tu gagnes la division ou c'est bust, là. C'est oui. À ce point-là. Là.
Mais parce que c'est grand ouvert.
C'est ça. Ils l'ont, la division. Là. Jusqu'à preuve du contraire, puis d'être poche, ils l'ont, la division. Ils peuvent avoir une saison genre de 9-7 ou de 10-6, puis d'après moi, ils vont gagner la division pareil.
Oui, parce qu'il y a les Browns qui vont être vraiment dominants, parce que leur défensive va être pas mal meilleure qu'elle a été l'année passée. Elle était correcte l'année passée, elle était pas bonne, mais elle était correcte. Puis leur attaque va être dangereuse avec Baker, avec OBJ, avec Jarvis Landry, avec Nick Chubb qui va reprendre du galon. Ça va être dangereux. Kareem Hunt, possiblement.
David Njoku
qui va aussi prendre du galon. Après ça, t'as les Steelers de Pittsburgh qui viennent de perdre leurs deux plus importants morceaux.
Mm-hmm.
Ça va être très difficile de se remettre de ça.
Tu sais, juste pour continuer sur le point des Steelers, tu sais, on n'enlève rien à Juju Smith-Schuster puis à James Conner qui pourrait surprendre, mais je veux dire...
C'est pas OBJ, puis c'est pas OBJ, c'est pas Antonio Brown, puis c'est pas Le'Veon Bell. Puis le problème avec les Steelers de cette année versus ceux de l'année passée, c'est qu'après Juju, t'as plus rien. Après... porteur de ballon, tu viens de le nommer, Jean Blanc, incroyable.
James Conner.
Après James Conner, t'as plus rien. L'année passée, t'avais Antonio Brown et après Juju. Juju, c'est un receveur de passe numéro 2 exceptionnel. C'est un receveur de passe numéro 1 correct.
Mm-hmm.
Mais t'as rien d'autre après, ou presque.
Ouais. Ben, t'as James Washington qui peut donner quelque chose, mais encore là, faut qu'il fasse ses preuves.
Ouais, puis après ça, dans la division, là. T'as les Ravens qui perdent des morceaux à tous les jours. Ils ont perdu plein de joueurs, soit par les agents libres, soit parce qu'ils les ont coupés. Ça ressemble aussi à une reconstruction cachée, en passant. Ils ont l'air de juste placer des affaires, puis placer des pions pour viser les autres années. Puis t'as les Bengals qui ont même pas l'air de savoir qu'ils existent. Fait qu'après ça, c'est... Oui, je pense que tu viens de voir la nouvelle de dernière heure que je voulais dire.
Qui va faire un excellent lien avec la prochaine...
Il y a des chances, vas-y donc, on va.
Ben écoute, on va en parler tout de suite. On va revenir un peu sur les Browns tantôt, si ça te dérange pas. Mais Big Dick Nick Foles qui s'en va avec les Jags. Et en conséquence, ben Blake Bortles a été libéré par
C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est un
Blake
excellent...
Bortles a été libéré par les bons vieux Jaguars.
Ça a été rapporté en premier par Ian Rapoport de NFL Network. Et non seulement ça, mais c'est un excellent lien parce qu'il pourrait aller avec les Giants.
Il y a ça!
Parce qu'il y a Eli Manning, puis après ça, t'as rien. Puis Eli Manning, ça commence à être rien.
Ou les Dolphins.
Les Dolphins aussi, c'est vrai. Ouais. C'est très possible. Mais bon.
Mais bref, la position de corps est pas tellement, recherchée là, dans cette période des agents libres. Je te dirais que Nick Foles, c'était pas mal le plus gros.
C'était le plus gros nom. T'as Josh Rosen, qu'on n'est pas trop sûr exactement de ce que les Cardinals veulent faire finalement. Qui pourrait... C'est pas un gros nom.
Uh-huh.
Mais, éventuellement, ça pourrait en être un. C'est un nom avec du potentiel.
Ouais.
Puis on en a parlé la semaine passée. Les Cardinals voudraient probablement l'échanger. Mais on n'a pas eu vraiment de vraie confirmation là-dessus. Puis on va juste le savoir pour de vrai s'ils veulent réellement s'en débarrasser. Quand ils vont repêcher Parce que s'ils vont chercher Kyler Murray, ben là, c'est sûr et certain, bye Josh Rosen. Sinon, ouais, on n'est pas trop sûr. Là, genre, tu sais, la semaine passée, on parlait de ce que Charlie. Voyons.
Charlie, l'analyse
de la NFL, là, Charlie, ouais. Mais.
McCaskey, non, je sais pas.
C'est quelque chose. Ça va pas bien, c'est ça. Charlie Casserly.
Casserly, merci.
Oui, il avait sorti comme quoi Kyler Murray avait déçu beaucoup de monde au Combine en faisant absolument rien parce qu'il avait. Il avait fait des entrevues puis il avait été très décevant dans ses réponses. Moi j'ai entendu qu'il a dit pas plus tard qu'hier à NFL Network encore, mais là c'était dans un podcast de NFL Network, c'est que dans les entrevues que les Cards de l'Arizona ont faites pour aller chercher leur nouvel entraîneur-chef, c'était clair et net que le plan de la haute direction des Cards c'était de garder Josh Rosen. Donc là, ça change aussi les plans.
Ça ferait du sens, honnêtement.
Ben, il faudrait, mais en même temps, es-tu vraiment obligé?
Ben, je vais répondre. Honnêtement, oui. Si t'es pour avoir un choix de troisième ronde pour Josh Rosen, honnêtement, je trouve ça. Je trouverais ça quand même un tantinet ordinaire. Tu sais, au final, là, à un moment donné. Ce qui arrive, là, c'est que t'as dépensé, t'as monté dans le repêchage l'année passée pour aller chercher Josh Rosen, puis là, t'arrives, puis tu décides d'en te débarrasser. En termes d'organisation, là, t'as l'air d'une belle gang de morons. Fait que, tu sais, moi, je pense que l'idéal, c'est de repêcher un gars, exemple, comme Nick Bosa, qui va être un excellent joueur de ligne défensive. Puis tu sais, c'est un sure shot là, tu sais, Kyler Murray, il a ses questions, il a son questionnement puis tout ça. Nick Bosa là, il y a personne qui se pose de questions, puis on le sait qu'il va être bon. C'est un peu comme son frère Joey, qu'on savait qu'il allait être bon. C'était pas une question là, tu sais, il va devenir une superstar. C'est plus une question de temps que de savoir si il va l'être. Alors que Kyler Murray, tu sais, décor arrière, tu sais, je parle pas de sa grandeur parce que je veux dire, Russell Wilson a du succès dans la NFL, puis ils ont à peu près les mêmes
gabarits.
Exactement. Fait que tu sais, au final, moi honnêtement, je vois pas c'est où la fameuse là urgence d'échanger Josh Rosen, mais, et je dis bien mais, si une équipe entre les lignes ici, les Giants échangent un de leurs choix de première ronde pour aller chercher Josh Rosen. Je signe en haut, je signe en bas, puis let's go. Parce que d'après moi, tu vas être capable d'aller chercher quand même un carrière intéressant. La position 17, si je me souviens bien, ou un petit peu plus haut, le choix des Browns et Cleveland. Mais au final, tu sais, garde Josh Rosen, c'est un gars qui peut t'aider, puis c'est un gars avec qui tu as investi beaucoup de capital l'année passée dans le choix. Tu sais, si je me souviens bien, là on était allé chercher quand même là des choix intéressants. Si je me souviens bien, c'était du côté là des Raiders pour ne pas les nommer.
Je pourrais pas t'aider parce que je m'en souviens plus, mais moi le gros problème en fait, c'est parce que Kyler Murray, quand on entend parler de lui, c'est soit en extrêmement bien, soit en extrêmement mal. Mm-hmm. Tandis que Rosen, ben on le disait dès le départ, pendant toute l'année avant pendant toute son année de repêchage, que c'était très positif. Donc ça reste à voir là. Je pense vraiment que le meilleur call pour les Cards, c'est de garder Rosen.
Ouais,
mais je leur enverrais pas de vouloir Kyler Murray non plus.
T'sais, justement, c'était un échange avec les Raiders l'année passée, puis on avait donné un choix de première ronde, le 15e au total, un choix de troisième ronde, puis un choix de cinquième ronde pour monter de 5 rangs pour aller chercher Josh Rosen. C'est quand même du capital, je veux dire.
Le jour du repêchage, les choix au repêchage valent cher.
Ouais, c'est ça. C'est un gros, gros, gros point là, que je considérais là, important à de mentionner, parce que c'est beaucoup de capital. C'est trois joueurs dans une équipe en reconstruction, là, parce qu'on va se le dire, les Cards sont en reconstruction. C'est trois possibles joueurs qui vont être dans ton alignement et qui vont avoir un impact d'ici un an ou deux.
Ouais.
Là. Fait que non. Moi, je pense que ce serait plus logique pour les Cards de garder Josh Rosen. Puis d'y aller avec un des bons joueurs de ligne défensive. Parce qu'ils. Peu importe qui sort dans le top 5, là, sont tous excellents. Là. Dans le top
Ouais.
5, là, tu peux pas en manquer un.
Non, tu peux pas te tromper.
C'est ça. Tu peux
Et
vraiment. Cette année, tu
vas-y
peux
au
vraiment pas.
hasard, puis ça va être un bon choix
C'est
pareil.
ça, exact. Fait que, tu sais, je te dirais que j'ai pas tellement de mi j'ai plus de misère à repêcher un corps arrière quand t'en as un puis que tu peux juste y faire confiance. Puis tu sais, si ça marche pas au pire, là, tu vas finir encore dans la cave puis tu vas aller en chercher un meilleur encore parce que cette année, les corps arrière sont un peu ordinaires, tu sais.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en fait, on peut résumer ça à si tu y vas avec un des cinq joueurs de ligne, peu importe lequel que tu prends, ça se peut qu'au final, on te dise, t'as pas pris le meilleur qui était disponible, mais on comprend pourquoi t'as pris celui-là. Tandis que si tu prends le corps arrière, on va te dire, c'est un coup de circuit au final parce que ça finit très très bien. Soit on dit c'est un choix gaspillé parce que ça finit très très mal.
Moi,
C'est
exact.
vraiment, c'est un ou l'autre totalement. On va passer du côté des. En fait, on va revenir aux Giants en vitesse à cause à
Ouais,
propos de Landon Collins.
les nouvelles se bousculent.
Ouais, ben là, c'est Landon Collins qui aurait été un excellent remplaçant à Landon Collins que les Giants ont laissé partir. Mais finalement, il s'en va aux Redskins. Il a signé hier, ben
Ben,
officiellement aujourd'hui,
honnêtement,
là.
écoute, tu vois le contrat qu'il a reçu, puis moi aussi, je serais parti. Là.
C'est sûr, là, mais
Je veux dire, le même contrat avec une équipe qui a une possible chance de faire quelque chose, ou le même contrat avec une équipe qui va faire rien,
ouais, c'est ça.
le choix est pas trop compliqué. Mais.
Le bon côté des Redskins, c'est que leur défensive est potable. Leur attaque
Ouais.
va sûrement être horrible encore cette année, mais leur défense est potable, tandis que les Giants, ça va être horrible de A à Z.
Ouais, non, tout à fait.
C'est
Ça,
sûr et certain.
je suis tout à fait d'accord. Mais non, moi je trouve que c'est une bonne signature. C'est une bonne signature pour les Redskins. J'avais pas compris pourquoi on avait libéré DJ Swearinger un peu plus tôt dans l'année. Mais c'est un upgrade à Ha-Ha Clinton-Dix qui était là l'an passé. On va chercher beaucoup d'argent. Puis. Non, j'aime quand même le move du côté des Redskins. Les Redskins qui, lentement mais sûrement, vont avoir un club.
Ouais, lentement plus que sûrement.
Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est parce qu'éventuellement, cette année, je m'attends pas à des miracles, mais cette année, je m'attends peut-être plus à une saison difficile, mais c'est un pas en arrière pour en faire deux par en avant, si tu veux mon avis, là,
Ouais.
parce que, tu sais, je veux dire, comme tu dis, la défense est quand même bonne. Mais à l'attaque, on a des pièces qui pourraient être intéressantes, qui vont être intéressantes dans les prochaines années. Je pense entre autres à Josh Doctson, qui est un choix de première ronde. Mais là, avec un bon corps arrière, je pense qu'il peut faire quelque chose de bien. Mais non, lentement mais sûrement. Je te dirais que tu sais, c'est pas sexy, mais
C'est
on
ça, le problème des Redskins, c'est que c'est pas sexy
va.
pour une scène.
Ouais, non, exact.
0, 0, 0, 0. C'est vraiment ça le problème. En plus, déjà que leur nom, tout un gros. Leur nom puis leur logo est déjà au
Collé.
milieu d'un gros scandale. Ça va pas être une belle année à Washington. C'est sûr que ça va être moins pire parce qu'on va avoir les Giants pour se consoler dans la même division.
Ouais. Ils
Mais
seront
ça.
pas derniers, mais
Ouais,
ils
c'est
seront pas
ça.
premiers.
Ça va, ils seront pas derniers par élimination, là. T'sais, c'est pas
Ouais,
parce
non,
que
exact.
c'est vraiment juste par chance, là. On va passer. Avant de
On
passer.
peut, ouais, on va pas, avant de parler de nos équipes, on peut parler des Ravens un
Ouais,
peu.
un mot rapide. En fait, là, on a été chercher Mark Ingram et Earl Thomas, qui sont
Des
deux.
bonnes acquisitions.
Oui, deux bonnes acquisitions, sauf que ça viendra pas combler les grosses pertes qu'il y a eu.
Définitivement.
Vraiment, là, il y a eu. Ça a fait très très mal. Puis tu sais, c'est. On s'en va à guerre avec un tire-poids, là, comme on dit, là.
Ouais.
On essaie de patcher des trous avec des dizaines. C'est pas grand-chose, là,
Ouais.
ajouter Mark Ingram et Earl Thomas, considérant tout ce qu'on a perdu.
Ouais, ça, je suis tout à fait
Mais ça
d'accord.
reste des bonnes acquisitions quand même.
Ouais, ben moi je trouve, tu sais, je sais que les Ravens étaient dans le derby pour Le'Veon Bell, finalement on se rabat sur Mark Ingram. Je suis un peu dans la même mentalité que Bell avec les Jets. Ça va enlever de la pression sur Lamar Jackson, mais je pense pas que Lamar Jackson va avoir un meilleur bras. C'est ça l'affaire. Mais
Ouais.
on va probablement y aller jeu au sol, jeu au sol, jeu au sol, tout dépendamment du gars qui va toucher la balle. Puis je pense qu'on cherchait plus un Ed Reed 2.0 avec un Earl Thomas pour essayer de revamper la défensive avec, comme tu dis, les pertes. Parce que là, Terrell Suggs est parti. CJ Mosley est parti. Ça, c'est des grosses pièces en
Eric Weddle est
défense.
parti.
Eric Weddle est parti. C'est des grosses pièces de
Ouais.
cette défense-là. J'ai hâte de voir. C'est pas terminé, là. Il y a encore des possibilités qu'on ajoute à tout ça. Mais honnêtement, c'est des gros, gros
Ouais, vraiment,
joueurs, là.
vraiment. Vraiment. Là,
Bon, on va passer à tes bons vieux
on va
Chiefs,
passer à mon équipe parce qu'on a de quoi à dire sur la mienne. Sur la
là. Ouais,
tienne,
ben
on n'a
là.
pas grand-chose à dire, mais tu veux qu'on en parle quand même. Du côté des Chiefs, ben, on a laissé partir Eric Berry, on a échangé Dee Ford et on a aussi coupé Justin Houston. Trois très, 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 très gros morceaux de cette défensive-là l'année passée. Eric Berry, il était pas un morceau de la défensive pour de vrai parce qu'il n'a à peu près pas joué. Je pense qu'il a participé à un match, là. Mais ça restait quand même un gros morceau de la défensive. Quand il jouait, là, ça changeait complètement la défensive de l'équipe. On s'en va le remplacer par Tyrann Mathieu, qui était avec les non, qui était avec les Texans l'année
Ouais.
passée. Très très bonne signature. Ça, je suis vraiment vraiment content de le voir arriver avec l'équipe parce qu'on a besoin là, d'un général à la défensive en arrière pour remplacer Barry. Déjà qu'on perd Ford et Houston.
Ben, continue, mais je vais avoir une question à te poser à
Oui,
ça.
mais en fait, Houston et Ford. Houston, c'était écrit dans le ciel avant même la fin de la saison. On le savait que ça. Il allait avoir le même traitement que Tambali. On va le couper parce qu'on ne le voit plus dans nos plans. On va lui dire merci pour les très bons services, mais on n'a plus besoin de toi. Donc, c'était un après l'autre. Pour ce qui est de Dee Ford, c'est surtout parce que le nouveau coordonnateur défensif des Chiefs, Spagnuolo, j'ai un blanc encore sur le nom de famille. Ça va pas sur le prénom, ça va pas ce soir-là. Mais Spagnuolo, son modèle de défense, en fait, le style de jeu de Dee Ford allait tout simplement pas. Fait qu'on a décidé de s'en débarrasser tout de suite plutôt que de le faire jouer à moitié du temps puis qu'il perde de la valeur. Là, il y a eu une saison exceptionnelle cette saison. Il sortait un peu de nulle part. Pour être très honnête, là. On s'attendait à ce qu'il soit bon, pas à ce point-là. Fait que la valeur était haute, on en a profité pendant qu'il était encore temps. Je suis vraiment déçu de le voir partir parce qu'il était très très bon. Puis là, pour aller sur la ligne défensive, il n'y a plus rien, là. Il y a Chris Jones, puis c'est à peu près tout.
Ben c'est là un peu que je m'enlignais, tu sais, avec ma question que je voulais te poser, c'est que, tu sais, Tyrann Mathieu, c'est un gros morceau que vous êtes allé chercher du côté des agents libres, mais j'ai fortement l'impression que les Chiefs ont baissé en termes de qualité. Tu sais, je trouve que les Chiefs, tu sais, quand on joue à NHL, mettons, là, t'as tout le temps ton overall, tu sais, ta note générale là, de 87, 86.
Oui.
J'ai l'impression que dans cette période-là des agents libres, là, les Chiefs ont perdu tellement des gros morceaux que leur note générale en a pris un coup. Tu sais, un autre, là, un nom qu'on parle pas beaucoup parce que justement, il y a ces gros noms-là qui sont partis. Mais Mitch Morse, là, qui s'en va avec les Bills, là, ça aussi, c'est une autre affaire que, tu sais, c'est un autre
Mais ça
morceau
aussi,
qui.
ça fait mal à notre ligne
C'est ça,
offensive.
tu sais, c'est des gros morceaux qui partent, des gros morceaux importants dans la run des Chiefs l'année passée. Puis tu sais, je comprends qu'on a des joueurs à signer, entre autres, pas Kareem Hunt, mais Tyreek Hill, puis éventuellement Patrick Mahomes. Mais je trouve tellement que l'équipe a pris un downgrade. Tu sais, les gros perdants, selon moi, de cette période des agents libres, c'est les Chiefs de Kansas City.
C'est surtout notre unité défensive.
Ouais.
Parce que l'attaque reste sensiblement la même. On va avoir. C'est sûr qu'on n'a
Plus
pas
de joueurs
vraiment.
de sang.
On n'a plus de joueurs de centre vraiment. Puis on a toujours pas officiellement un vrai porteur de ballon.
Ben, le Carlos Hyde est là.
Ouais, mais Hyde, il a perdu sa job aux deux dernières équipes qu'il a été. Là.
Ouais.
Même, on pourrait quasiment dire trois. Là. C'est sa quatrième équipe en trois ans. Fait que ça va moins bien. Fait que je suis pas très, très optimiste de ce côté-là. Sauf que, encore une fois, l'attaque aérienne va être dominante.
Mm-hmm.
Ça va être des parties encore à toutes les semaines. Ça va être un concours de qui est capable de scorer le plus.
Mm-hmm.
Fait que c'est juste d'espérer que la défensive soit capable d'en arrêter une ou deux par match. Parce que ça va être difficile d'arrêter l'attaque des Chiefs, malgré que le jeu au sol sera pas exceptionnel. Mais ouais, le jeu au sol m'effraie encore beaucoup parce que c'est ce qui nous a fait mal en fin de saison. Là. C'est ce qui a fait qu'on a eu difficile. C'était plus facile de nous battre par là, puis c'est comme ça qu'on a perdu. Ouais. Le bon côté, c'est qu'on a, contrairement à l'année passée, on a quatre choix, excuse-moi, à l'intérieur des trois premières rondes. L'année passée, je pense que notre premier choix était en fin de troisième ronde ou en début de quatrième. Ça aide. L'année passée, on avait juste sélectionné des joueurs de défensive, puis j'ai l'impression que ça va ressembler sensiblement à la même chose cette année. Puis tu l'as dit tantôt toi-même, c'est une grosse année au niveau des défensives, surtout des joueurs de ligne. Donc, est-ce qu'on peut utiliser nos choix de deuxième et de troisième ronde pour monter notre choix de première ronde, aller chercher un de ces joueurs de ligne défensive-là?
Ça reste une possibilité.
Ça reste une très bonne possibilité. Ça m'étonnerait pas et ça me décevrait pas non plus, parce qu'on en a fortement de besoin. Reste à réaliser ça. Mais sinon, Tyrann Mathieu, comme je disais tantôt, c'est une très très bonne acquisition, mais on est perdant quand même sur le reste de ça. Puis là, tu voulais nous parler de tes Bears.
Ben oui, mais je voulais parler des Bears parce que...
Ben oui, mais pourquoi tu veux nous en parler justement?
Si ben c'est non, mais c'est, non, c'est parce que je trouve ça drôle. C'est que je veux en parler parce que faut quand même parler de mon équipe. Mais on a fait des petites acquisitions.
Un batteur que le nom de famille c'est Blewett.
Donc après Blewett.
Après un gars qui a
Blewett, Chris Blewett.
Ben oui, après un gars qui a manqué sa shot, on s'en va chercher un gars que son nom de famille ça veut dire manquer sa shot.
Mais ça a l'air que, en tout cas, j'ai pas regardé, mais ça a l'air qu'il était bon au college. Mais je me dis, tu sais, je lisais des journalistes qui disaient à quel point son nom a peut-être pas aidé dans le fait qu'il s'est trouvé une job dans la NFL, tu sais.
Ah, c'est clair.
Je veux dire,
tu sais, une job pour un batteur dans la NFL, c'est basé quasiment à 100% sur la confiance que ton coach a envers toi. Quand ton nom c'est Blewett, t'essayes d'avoir la confiance de ton coach.
Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve ça quand même trop drôle. Mais, tu sais, des gars comme Cordarrelle Patterson, on parlait de Josh Bellamy tantôt. Ça, c'est un upgrade par rapport à ce que Bellamy offrait. Parce que Patterson, c'est un joueur qui a une belle versatilité. Il peut jouer running back, porteur de ballon, il peut jouer porteur de ballon, il peut jouer receveur de passe, puis il peut jouer retourneur. C'est un couteau suisse, puis c'est nécessairement ce que Matt Nagy aime. Fait que c'est une bonne affaire de ce côté-là. On a aussi des grosses pertes par contre chez les Bears. Adrian Amos qui était là un de nos demi de sûreté qui s'en va du côté des Packers, le sacrement. Mais non, je suis pas déçu de le voir partir. Et là, justement, là, Ian Rappaport qui rapportait tantôt qu'on était dans les possibles discussions pour amener Haha Clinton Dix. Je sais qu'on l'aimait beaucoup chez les Bears là, à son année de repêchage, mais finalement, on avait décidé de jeter notre dévolu sur Kyle Fuller.
Ouais, pis c'est plus aussi bon que c'était aussi Haha Clinton Dix. Hein.
Ouais,
c'est encore efficace, c'est encore fiable, mais ça va l'être de moins en moins.
Mais je veux dire, honnêtement, là, on parle beaucoup de Adrian Amos. Adrian Amos, c'était pas terrible ça non plus. Là. Tu sais, je veux dire, ça a fait en sorte, tu sais, il a signé un gros contrat avec les Packers, mais l'année passée, quand Eddie Jackson s'est blessé, on a vu que Adrian Amos a eu beaucoup de misère avec Deion Bush et il a eu l'air, tu sais, d'un... T'sais, il était excellent à côté d'Eddie Jackson, Adrian Amos, mais il était bon, correct, avec n'importe quel autre demi. Fait que tu sais, du côté des Bears, on a pris la décision de, on regarde, on va payer Eddie Jackson d'ici un an ou deux, parce qu'il va falloir éventuellement signer son contrat et on va le passer au cash. Puis ça, c'est le cas de le dire. C'est un des très bons joueurs de la défensive des Bears. Non, c'est ça. On a aussi décidé de laisser partir Bryce Callahan, qui devrait signer un contrat faramineux ailleurs pour de quoi qu'il mérite pas. On a été chercher là, justement le nickel avec les Jets. Non, tu sais, c'est tranquille, mais c'est pas nécessairement de bonnes nouvelles. Et c'est pourquoi que je voulais te parler du fameux free agency des Bears de 2017. C'est que On parle souvent que le free agency, quand t'as gagné le free agency, c'est que ça va bien. Les Bears, techniquement, dans les différents joueurs de la NFC North en 2017, avaient gagné le free agency selon plusieurs experts. Sauf que, et je tiens à mentionner le sauf que.
Oui.
T'expliques les joueurs qu'on avait signés qui n'étaient pas avec la formation. Parce que, tu sais, il y a eu plusieurs joueurs qu'on a signés, entre autres, les Bellamy, Callahan et tout ça. Mais ça, je préfère ne pas. Je te nomme des noms. Kendall Wright.
Oui, OK.
Marcus Cooper.
Uh-huh.
Marcus Wheaton.
OK.
Quinton Demps.
OK.
Deion Sims.
Ouais.
Là, ça, à date, là, les quatre noms que je t'ai nommés, il n'y en a plus un avec l'équipe.
C'est aussi tous des noms que je sais que j'ai déjà entendu quelque part, je sais pas où.
C'est ça. Mais tu sais, c'est tous des gars qui ont été cherchés à gros prix du côté des Bears, puis qui ça a donné fuck all. Par la suite, il y a une bonne signature qu'on a eue cette année-là, par contre, puis ça a vraiment solidifié, c'est Prince Amukamara, qu'on avait signé pour un an, 7 millions complètement garanti. Ça, c'était une bonne des signatures. Et la signature des signatures.
Ah, je sais.
La signature.
Ah oui, dis-le.
Que les Bears sont devenus relevant aux yeux des experts de la NFL.
Ah oui, dis-le.
Mike Glennon qui a signé un contrat de 3 ans, 47 millions de dollars. C'était dégueulasse. Et ça a tellement convaincu les Bears de garder Mike Glennon que quelques mois plus tard, on repêchait Mitch Trubisky.
Une chance dans
la surprise la plus totale des experts de la NFL qui croyaient que Mike Glennon était le sauveur.
Je me souviens, là, on était chez vous quand vous avez repêché Mike Glennon. Ben, en fait, non, c'est le lendemain, on était chez vous puis on en parlait. Puis, on comprenait pas pourquoi vous étiez allé chercher Trubisky.
À ma défense, moi, honnêtement, moi, j'aimais pas Trubisky dans l'année de repêchage qu'on est allé chercher, principalement parce que on parle souvent des man crush. Là. Moi, j'étais un man crush sur Jamal Adams. Là. Jamal Adams, je l'adorais. Mais ça a donné que dans ce draft-là, on est allé chercher Trubisky, une position qu'on avait besoin parce que c'était un corps arrière puis on avait vraiment besoin d'un corps arrière. La preuve, on venait de signer Mike Glennon pour 3 ans. Puis, on est allé chercher en quatrième ronde Eddie Jackson, qui est notre semblant de Jamal Adams avec les Bears. Ce qui fait en sorte qu'on s'est ramassé deux starters dans ce draft-là qui sont très bons. Mais... Écoute, puis anecdote là-dessus, moi, il y avait un de nos amis, pour ne pas le nommer Guigui, qui était arrivé puis qui m'avait dit, mettons que les Bears draft Trubisky, qu'est-ce que tu fais? Je pogne 100$ puis je m'en vais me saouler au bord. J'avais dit ça straight de main. Et quand le pic est arrivé, j'ai simplement dit, and I'm out of here. mais honnêtement, avec du recul, on le regrette pas. Mais c'est juste pour prouver que des fois, tu signes des gars dans le free agency qui sont considérés comme les gros noms ou parmi les gros noms disponibles. puis ça donne rien. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne dans cette, à part Prince Amu Kamara, qui est notre deuxième demi de coin, qui est devenu là un élément important de cette équipe-là. Tu sais, Marcus Cooper, Marcus Wheaton et Quinton Demps ont été libérés après leur première année. Même chose pour Mike Glennon. Et Deion Sims a joué au final 2 ans avec les Bears et a été libéré là pas plus tard que la semaine passée. Alors, honnêtement, ça a été tranquille, mais c'est pas une mauvaise chose parce qu'habituellement, quand une équipe décide de patcher des trous à peu près partout, lors des free agents, ça donne ça avec le recul. Fait que je ferais, hey. Honnêtement, tranquille ça l'a été, tranquille c'était et c'est tant mieux.
Avant d'enchaîner, il y a un point que j'avais oublié là, du côté des Chiefs. En ce moment, demain, Ronald Darby, qui était avec les Eagles, qui est un demi de coin, va être en visite chez les Chiefs. Ça serait une bonne acquisition pour l'équipe. Ça ferait du bien, mais ça ferait quand même pas qu'on serait une meilleure unité défensive que l'année passée. Mmh. C'est à ce point-là là, que ça a fait mal la perte de Houston puis de Dee Ford et de Eric Berry, même s'il jouait pas. Puis il y a un tweet là, qui m'a passé dans les yeux sur mon Twitter en passant. Là, c'est d'un gars de Arrowhead Pride, qui est un site qui couvre les activités des Chiefs. Puis il a dit, ça vient de me frapper, Ronald Darby, demi de coin. Ouais. Trey Boston ou à Clinton Dix sur la tertiaire. Emmanuel Ogba, Ziggy Ansah ou Shaq Barrett sur la ligne défensive. Et tout d'un coup, on est heureux. On est heureux, oui, mais dans les circonstances.
Ouais.
Parce que il te faudrait un par position, c'est sûr et certain. Pour en avoir, tu sais, t'en as besoin le dos, un par position. Puis encore là, je suis pas sûr que notre unité défensive est tant améliorée que ça. C'est tous des noms qui sont bons, qui sont fiables, qui sont efficaces, mais qui sont pas exceptionnels. Puis on a besoin, on a vraiment besoin de joueurs exceptionnels.
Ouais, c'est ça. C'est mais vraiment là-dessus. Souvent ces joueurs-là vont se chercher par le repêchage.
Ouais.
C'est bizarre, hein, pas pour ramener ça encore avec les Bears, mais c'est quelque chose que je parle souvent. On a souvent reproché aux Bears de tout le temps patcher un peu justement en allant chercher des joueurs ici et là pour remplacer des joueurs qui quittaient. Puis il y avait une autre équipe, pour ne pas le nommer, les Packers, qui, eux, draftaient vraiment de très bons joueurs et qui buildaient leur équipe. Mais j'ai l'impression que, tu sais, on prend cet exemple-là dans la NFC North, ça a un peu changé. Là, présentement, les Packers, ils payent de l'argent, ils donnent de l'argent au monde comme ça se peut pas parce que, au final, parce qu'ils sont pas capables de drafter comme il faut depuis une couple d'années. Puis ça paraît, tu sais, les joueurs vieillissent, puis on n'a pas personne avec qui les remplacer. Tu sais, moi, un des bons draft picks que les Packers ont eu, c'est Blake Martinez, qui est tout simplement incroyable. C'est un très bon linebacker. Mais, tu sais, là, Clay Matthews est vieillissant. D'ailleurs, il est joueur autonome sans compensation présentement. On a libéré Nick Perry. Là, on est allé chercher deux bons demi de coin, mais encore une fois, on attend de voir les résultats. C'est pour ça que j'ai hâte de voir après le repêchage de quoi les équipes vont avoir l'air, puis qu'est-ce qu'on va réussir à patcher. Parce que là, pour le moment, les Chiefs, c'est pas nécessairement reluisant, mais si on va chercher justement, comme tu dis, un bon joueur de ligne défensive au draft, qu'on réussit à avoir quelque chose de bien d'établi, ça peut changer les choses de ce côté-là. Puis tu sais, j'ai vraiment hâte de voir. T'sais, c'est un long processus, puis qui va se terminer après le draft pour savoir comment on peut évaluer l'équipe.
Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. En terminant, je veux juste faire c'était même pas là, prévu. Là, je veux juste faire un petit mot sur les Alouettes de Montréal parce que ça bouge un peu.
Je m'enlignais là.
OK, parfait. Mais en fait, ça bouge un peu là, du côté de l'équipe. On a appris dans les dernières heures que l'équipe serait à vendre. C'est au départ, c'est Herb Zerwitzki. Zerbowski.
Zerbowski, oui, en fait.
Tout le temps de la misère de ce nom-là.
Oui, c'est ça, qui était aussi avec des informations d'Didier Mejus. Bref, les deux ont sorti des infos ici et là à l'effet que l'équipe serait possiblement à vendre. D'ailleurs, je te laisse continuer, mais le président des Alouettes a aussi réagi ce soir.
C'est exactement ça, c'est exactement là où je m'en allais. On est en connexion, c'est incroyable.
Ah, cool. Connecté!
Donc, Patrick Boivin, président des Alouettes de Montréal, et je cite... Ce qu'on entend est plus spéculatif que factuel. On ne magasine pas pour trouver un acheteur. Il n'y a pas de pancarte à vendre devant notre maison. Ça n'empêche pas des gens de nous approcher et de nous poser des questions. Cette phrase-là, je call bullshit comme j'ai jamais callé bullshit de toute ma vie.
En fait, il y a pleinement raison. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de pancarte à vendre devant leur maison. Est en avant de leur stade, vierge.
Ils n'ont pas de stade. Faut pas oublier ça, là. Les Alouettes ne sont pas propriétaires d'aucun stade. Ils ne sont pas propriétaires d'aucun bureau. Ils ne sont pas propriétaires d'aucun centre d'entraînement. Ils louent les trois.
Ouais.
Ils louent à l'Université McGill le stade. Ils louent au Stade Olympique les bureaux puis le centre d'entraînement et pour les pratiques à l'intérieur au Stade Olympique. Mais... Donc, ils possèdent rien d'autre que les joueurs. Ben, c'est zéro invitant pour un propriétaire parce que ta façon de faire de l'argent, là, c'est là aussi. Là. C'est en faisant un peu de. En t'amusant un petit peu avec l'immobilier de ces terrains-là, puis de des buildings qui sont là-dessus. Les Alouettes ont rien de ça.
Mais ça, honnêtement, là, puis il y a plusieurs noms qui ont sorti là, aujourd'hui, là, entre autres là, l'ancien des Alouettes, Éric Lapointe, qui est maintenant dans l'immobilier.
Pas le chanteur, dans... là.
Non, c'est ça, ouais. là. Mais puis, qui est maintenant dans l'immobilier puis dans l'architecture. Il y a plusieurs noms qui sont sortis, entre autres là, aussi Louis Morissette, là, qui est une personne qui pourrait être intéressée à être parmi une équipe d'acheteurs. Mais tu sais, vendez donc le club, les Winton Hall.
Mais c'est ça le problème, c'est parce que les Winton Hall, je sais pas combien ils l'ont acheté le club, mais je suis pas mal certain que ça vaut moins que ça valait quand ils l'ont acheté.
Oh non!
Mais
oh
c'est
non.
Quand qu'ils l'ont acheté?
Écoute, ça a été les seuls propriétaires de l'équipe de la nouvelle mouture.
Je pensais qu'ils avaient acheté pendant les années 2000. J'avais l'impression que ça avait été acheté, qu'il y avait eu un autre propriétaire. Okay.
Non,
mais ben, c'est sûr
pas.
Que oui, DeVock. C'est sûr que ça vaut plus. Mais ça vaut pas autant qu'ils veulent.
Non, c'est ça. Les autres, ils veulent.
J'ai vu un tweet passer. Je me souviens pas c'est qui, là. Je suis pas capable de le retrouver non plus. Comme quoi, on évaluerait les Argonauts de Toronto à peu près 10 millions. Puis une autre équipe, je pense que c'est les Red Blacks, à 8 ou 9 millions. Sauf que les Argonauts, les Red Blacks, ils ont des terrains. Ils ont les Argonauts n'ont pas le stade où ils jouent, mais ils ont un centre d'entraînement, ils ont des bureaux administratifs. Mm-hmm. Les Red Blacks ont les trois, à ce que je sache. Juste ça, c'est une grosse partie là, du montant puis de l'entente. Quand tu regardes, tu sais, quand on parle de la vente d'une équipe de la NHL ou de la NBA ou de la NFL, le montant le plus important du montant, c'est vraiment c'est le brand, la marque, l'image de marque. Les Alouettes ont pas ça. Dans la dernière année, ils en ont eu quatre différentes. Là. Fait que l'image de marque est recommencée à zéro, elle vaut plus rien. L'équipe sur le terrain est très mauvaise, ça regarde pas bien. Puis dans la CFL, ce qui va valoir le plus, ça va être l'immobilier. Parce que le reste, ça vaut pas grand-chose. Tu peux pas faire grand argent avec le reste. Tu peux en faire un peu avec ton image de marque, c'est tout. Puis les Alouettes, ils ont rien de ça. Fait que je vois pas comment ils peuvent se faire beaucoup d'argent. Ils vont en faire plus que ce qu'ils ont acheté. Parce que c'est sûr qu'ils ont pas dû acheter ça pour grand-chose quand ils l'ont acheté pendant les années 90. Mais ils vont être bien déçus, d'après moi, là, du montant qu'ils vont se faire offrir. Puis c'est dommage parce qu'il faut qu'ils vendent ça au plus vite. Parce que on parlait du propriétaire des Knicks de New York puis du propriétaire des Sénateurs d'Ottawa. C'est la même chose.
Les Alouettes, c'est les Sénateurs d'Ottawa de la CFL.
C'est la même chose.
Ouais. Mais tu sais, puis pour continuer sur peut-être en terminant, tu sais, je veux dire, c'est tout dans l'intérêt des acheteurs de vouloir acquérir les Alouettes, justement pour les points qu'on a nommés. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas de complexe d'entraînement. Ben justement, si tu as de la liquidité puis que tu as des personnes, tu peux avoir justement des contacts pour pouvoir essayer peut-être de construire un stade à Montréal. Tu sais, je veux dire, il y a des terrains,
Ouais,
il y a
c'est
des
vrai.
terrains disponibles, puis eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est, regarde, on va mettre de l'argent un peu là, en commençant une équipe, dès que tu l'achètes, tu mets tout le temps de l'argent un peu plus. Fait que tu sais, tu mets un petit peu plus d'argent côté marketing, tu annonces que tu vas avoir un stade, éventuellement, tu vas avoir le stade, tu vas pouvoir organiser des affaires. Tu sais, il y a plusieurs choses qui font en sorte que la ville de Montréal, outre les Alouettes, là, se prive de plusieurs gros événements sportifs qui peuvent être profitables.
Profitable, oui.
Moi, le seul exemple que j'ai en tête, puis ça a été mentionné à maintes et maintes reprises, la classique hivernale de la LNH. Je sais pas combien de fois qu'on en a parlé que, ah ouais, ça pourrait se faire à Montréal, mais qu'il n'y a aucune installation qui
Ouais.
permettrait à faire ça. Là, on pourrait permettre d'avoir justement des installations intéressantes. Tu sais, je dis pas de faire un stade là de 40-50 000 personnes
Tu
là
seras pas capable de
à
le remplir à 40 000.
seront pas capables de le remplir tout ça. Mais tu sais, un stade un peu comme l'Impact, un petit peu plus gros, que tu sais, t'es
Ouais.
capable justement, tu sais, un petit peu plus gros, à peu près la capacité du stade Percival Molson, là, qui est aux alentours entre 20 et 30 000 personnes, qui est un stade juste bien, qui est juste bien
C'est juste
à
parfait.
C'est ça. Fait que tu sais, tu fais un stade, je suppose que tu peux le mettre, là, j'ai honnêtement aucune idée, mais tu sais, parce qu'éventuellement, il va y avoir possiblement les expos qui vont revenir, ils vont avoir un stade aussi neutre, qui vont être une concurrence. Fait que tu sais, il faut que tu amènes de l'argent, tu sais,
Ouais.
faut que tu amènes le monde à dire, regarde, notre produit, il est bon. Puis je pense qu'avec les Whitehall, ça marche juste plus, puis les gens ont abandonner complètement l'idée que dès que les Watonnons vont être encore en place, on n'appuiera pas l'équipe.
Ouais,
Je
puis
pense que si on a des nouvelles idées, puis des idées plus fraîches aussi, puis des idées québécoises, ça c'est un autre point,
oui.
je pense que ça peut être très profitable.
Ouais, en passant, c'est 25 000 places la capacité du stade Percival Molson. Sauf que le stade Percival Molson, là, pour ceux qui ont déjà été, il n'y a pas des gradins tout le tour. T'as des bouts, surtout aux extrémités, derrière les zones de but, qui a à peu près rien. Il n'y a à peu près pas de place. Donc si tu fais des gradins tout le tour, t'arrives peut-être à 30 000. Puis je pense que c'est quelque chose qui serait possible à Montréal avec une équipe en santé.
Tout
Ce
à
que
fait.
les Alouettes n'ont pas été depuis le départ de Mark Trussman et de Anthony Calvillo.
Puis tu sais, il y a une autre affaire aussi, puis ça, c'est un autre point. Est-ce que les Alouettes et les nouveaux propriétaires pourraient faire un partenariat à la Toronto, mettons, là, puis d'arriver puis dire, bon, mais regarde, le stade Saputo, là, je comprends que tu as de la misère à le remplir, pareil quand tu as juste 20 000 personnes, mais mettons qu'on dit qu'on paye pour l'agrandissement, là, tu t'embarques-tu? T'sais, d'après moi, le chum Joey, là, il
Il
sera
va
pas
dire
contre.
oui.
C'est ça, t'sais. Fait que tu mets deux équipes à une place. D'une certaine manière, tu sais, je veux dire, la cohabitation se fait à Toronto. Pourquoi elle ne serait pas capable de se faire à Montréal?
Ça serait, il faudrait juste trouver un terrain qui fonctionne pour les deux. Parce
Ben,
que
tu peux utiliser quand même, tu peux agrandir le stade Saputo. Tu sais, je veux dire,
Non,
tu
je
peux.
sais, mais ce que je veux dire, c'est que je parle du gazon. Je sais qu'au football, on préfère souvent le synthétique parce que c'est plus rapide ou je sais pas trop, là. Mais au soccer, ils préfèrent de très loin le naturel parce que sinon, c'est plus dangereux pour les genoux des joueurs, surtout les plus âgés. Fait que là, il y aurait là, parce que je sais qu'entre autres, pour l'Impact, c'est un sujet très sensible, là, le terrain, surtout depuis les années Drogba, où lui, si le terrain, il plaisait pas, ça lui plaisait pas, il jouait pas, là. Fait que je sais que c'est un sujet très sensible du côté de l'Impact, sûrement que du côté des Alouettes, on s'entorche. Sauf que
C'est ça.
du naturel au football, ça se massacre vite, puis au soccer, t'as besoin d'un beau terrain, tu peux pas en avoir un qui est massacré. Fait qu'il y a ça.
Je soulève l'idée, mais tu sais, c'est une possibilité.
C'est une bonne idée, c'est juste qu'il y aurait peut-être, il y aurait bien des travaux à faire de négociation entre les deux organisations. Mais c'est très vrai que ça pourrait être une très bonne idée. Puis je suis convaincu que c'est une idée qui plairait aux deux organisations parce que tous tes frais d'exploitation, puis tout ça.
Serait partagé,
ouais. C'est ça, tu mets ça à 50-50, c'est partagé. Fait que tu sais, au pire, tu donnes 75-25, mettons, à l'Impact, vu que c'est eux qui l'ont construit, puis c'était leur projet dès le début. Mais c'est vrai que c'est une très bonne idée. Là. Ça, je verrais très bien un partenariat là, entre deux équipes qui ont plus de la misère à faire leurs frais. Ça pourrait être une belle façon de les faire puis de d'être profitable pour les deux équipes. Surtout que, ben en fait, non, je m'en allais dire, la saison est pas tout le temps entrecoupée, mais c'est pas vrai parce que la saison d'Impact commence là puis finit comme au mois de, d'octobre-novembre puis le football commence en août puis finit. Mais bon, je suis sûr qu'on est capable quand même. Là, les deux équipes jouent juste une fois par semaine. Là.
Ouais, c'est ça. Non, moi, je pense, j'ai hâte de voir, mais... La morale de cette histoire, là, le plus vite les Alouettes se vendent, le mieux c'est.
Ah, clairement, clairement. en plus, la semaine passée, il y a eu l'histoire du rachat de... En fait,
La libération.
La libération de Johnny Manziel, de sa suspension, appelez ça comme vous voulez, qui cacherait derrière peut-être un petit quelque chose d'autre... puis il y avait eu aussi des allégations comme quoi les Alouettes le savaient avant la période des agents libres qui a débuté là, un bon mois facile. Puis on le savait déjà, puis on a décidé de rien faire. Même si on avait coupé Manziel avant, on aurait eu plus d'argent pour aller chercher plus de joueurs, puis des meilleurs joueurs aussi, donc parce que ça aurait donné plus de polyvalence. Là, mais c'est.
Ouais.
Ça va, tout va mal aux Alouettes. Tout.
Ouais, non, c'est ça.
Écoute, même sur Twitter, tantôt, on a même demandé, est-ce que vous préférez que nos matchs de séries éliminatoires se jouent un vendredi ou un samedi? Non, est-ce que vous pensez qu'on devrait jouer des matchs éliminatoires le samedi l'année prochaine? Premièrement, vous n'allez pas en jouer. De deux, quelle organisation qui se respecte demande à ses fans directement sur Twitter, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand t'es une organisation qui se respecte, tu vas chercher l'information toi-même avec des études de marché, avec des campagnes, avec des professionnels de marketing. Tu ne demandes pas sur Twitter, hey, vous autres, vous préférez ça le samedi ou le vendredi?
Ah, c'est
pas
c'est,
sérieux.
C'est... Non, effectivement, c'est décourageant ces Alouettes.
Oui, vraiment.
On a fait le tour, je pense.
Oui, je pense qu'on a fait le tour, puis moi je suis bien déçu.
Si vous vouliez, je suis rendu triste.
Je suis rendu triste à cause des Alouettes. Ça m'a rendu triste.
Ouais, non.
tu voulais ajouter quelque chose en
termes Non, pas du tout. En fait, j'étais en train de me dire là, que j'étais découragé. Puis que...
Aussi. Bon, on va-tu broyer en dessous de la douche?
Ouais, on pourrait.
On va faire ça. Pendant ce temps-là, abonnez-vous à notre page Facebook, les podcasts. Abonnez-vous, on est maintenant sur Apple Podcasts, on est sur Google Play, on est sur Spotify et sur Balado Québec. Donc, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de ne pas nous écouter. On est disponible partout où tu écoutes tes podcasts. Puis évidemment participer, partager l'émission. Il y a des sujets que vous voulez dont on discute dans l'émission. Écrivez-nous.
Analyse.
Effectivement, parlez-nous-en là, sur Facebook, sur notre page. Elle est là pour ça, pas juste pour publier des memes que je fais sur le bord de la table quand j'ai le temps. Mais au moins on en fait donc. Dites-nous ce que vous pensez, puisque n'hésitez pas évidemment à ajouter votre grain de sel.
On va demander au peuple. Si
oui, pensez-vous qu'on devrait continuer? Donc, moi, c'est tout. J'ai plus rien à ajouter, toi, Gab?
Ben, j'ajouterais peut-être que donner du love là, pour les memes à Oli. Likez notre page Facebook, allez voir. Honnêtement, on essaie de partager le plus de nouvelles possible. Souvent, on partage les nouvelles qu'on va parler dans le podcast. Si vous avez des nouvelles qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous écrire aussi directement sur notre page. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Et non, on est ouvert à notre public, puis on a toujours envie de parler de choses qui vous intéressent.
Exactement. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute des podcasts. On se reparle la semaine prochaine. Ciao.
Ciao!